bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. 50 abstentions chez les députés La République En Marche. La proposition de loi anti-casseurs s'est heurtée hier à une hostilité record dans la majorité. Le texte a tout de même été adopté. Réaction à suivre. Dans ce journal, retour aussi sur la manifestation d'hier à l'appel de la CGT. Des gilets jaunes ont grossi les rangs des cortèges, mais les désaccords persistent, vous l'entendrez. Et puis cette enquête de Radio France et Mediapart ce matin. Les services secrets français savaient qu'un génocide pouvait avoir lieu au Rwanda après la attentat contre le président rwandais en 94. La loi anti-casseurs passe donc le cap de l'Assemblée nationale en première lecture. Le texte a été voté par les députés hier avec 387 voix pour, 92 contre, 74 abstentions. Les abstentions parmi lesquelles nous comptons 50 députés La République En Marche. C'est bien plus que la vingtaine d'abstentions attendues. Mais c'est voté, se félicite le député Les Républicains Éric Ciotti. La proposition, notons-le, venait de la droite sénatoriale. Éric Ciotti regrette seulement que le texte d'origine ait été remaniée par l'Assemblée.
Je me réjouis de l'adoption de ces dispositions. Elles pourront être améliorées dans la navette parlementaire, mais en tout cas, nous disons clairement que la violence n'a pas sa place dans les manifestations et que depuis trop longtemps, le droit de manifester est dévoyé par la violence d'un groupuscule de casseurs qui désormais pourront être interdits de manifester et ne pourront plus manifester cagoulés pour commettre leur sinistre forfait.
Cette interdiction de manifester pourra en effet être prise par les préfets, une compétence qui était jusque-là réservée aux juges judiciaires. On se croit revenu sous le régime de Vichy, avait lancé dans l'hémicycle lors de l'examen du texte le député centriste Charles de Courson. Son groupe Liberté et Territoire a voté majoritairement contre la proposition de loi. Charles de Courson nous explique pourquoi ce texte, selon lui, est dangereux.
Ça veut dire que les préfets deviennent des juges. Mais où va-t-on ? C'est une variante de cette dérive qui consiste à donner à l'exécutif des pouvoirs qui appartiennent à l'autorité judiciaire. Et je rappelle que les préfets sont là pour maintenir l'ordre public, que les libertés publiques, elles sont défendues par l'autorité judiciaire et elles seules. Mais le risque, c'est qu'un jour, un gouvernement autoritaire dérive et qu'il utilise à tour de bras pour interdire à des milliers de gens de manifester. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans cette loi.
Dans cette loi, des propos recueillis par Rosalie Lafarge. Mais pendant ce temps hier, des manifestations justement avaient lieu un peu partout en France. Mobilisation aux communes entre certains syndicats, la CGT en tête, des partis politiques de gauche et des gilets jaunes. La CGT évoque 300 000 manifestants au total, 137 000 répond le ministère de l'Intérieur. À Bordeaux, le cortège hier s'est séparé en deux au milieu du parcours. D'un côté la CGT, de l'autre les gilets jaunes, suivis par certains syndicalistes, preuve des dissensions. Marie Viennot a rencontré Gilles Lambersan de l'usine Ford de Blanquefort, menacée de fermeture. 850 salariés y travaillent. Ce représentant syndical CGT raconte sa déception.
Vous savez que les gilets jaunes font un peu ce qu'ils veulent. Et à un moment, ils ont décidé de prendre un autre parcours. Nous, on a fait le choix de suivre les gilets jaunes parce que c'est eux qui expriment au mieux les revendications communes aujourd'hui, quoi. Et malheureusement, la CGT, elle, a préféré suivre le parcours qu'elle avait décidé, déclaré. Et donc, il y a une séparation, ce qui est dommage, quoi. C'est ce que l'État souhaite, dans tous les cas. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut passer à autre chose, à être gentil et docile. Il y a un moment où ça serait bien de passer un cap. Et ce cap-là pourrait être passé avec les organisations syndicales. Ce cap-là, ça serait, pourquoi pas, aller jusqu'à la grève générale pour se faire entendre réellement, bloquer l'économie et obtenir satisfaction sur nos revendications, quoi. Sortir de ce train-train quotidien, quoi.
Vous pensez que c'est ça la difficulté des syndicats, là, en ce moment ?
Ben, complètement, quoi. Monsieur Macron claque des doigts, je vous invite à l'Elysée, on y court. Je vous écoute, mais je ne vous entends pas. Continuez à faire... Non, il faut passer à autre chose.
Gilles Lambersan de Ford à Blanquefort en Gironde. Les syndicats ont un rendez-vous téléphonique par ailleurs aujourd'hui avec Bercy à propos de l'avenir de leur usine. Il n'y aura a priori pas de champion européen du rail. Alstom convoque un comité européen extraordinaire cet après-midi. Il devrait être question de la fusion entre le groupe français et l'allemand Siemens. Fusion que Bruxelles s'apprête à tuer dans l'œuf. Problème de concurrence, justifie la Commission européenne. Le rail et la SNCF en France qui veut investir dans le fret. Car si la moyenne européenne est de 18% aujourd'hui en France, le fret ne représente que 10% du trafic de marchandises. La moitié est détenue par la SNCF. Et pour doper ce trafic d'ici 11 ans, la SNCF a présenté hier sa stratégie à Kim Kasmi.
Pour tenter de doubler son trafic fret d'ici 2030, la SNCF va investir 100 millions d'euros sur 5 ans, améliorer la digitalisation et les sillons qui correspondent aux horaires de passage des trains et tenter de mieux se coordonner avec les opérateurs français et européens. Sylvie Charles, la directrice de la branche SNCF fret.
Le rail met sur le fer, y compris des camions, ce sont les autoroutes ferroviaires par exemple. Donc mettre les camions sur le ferroviaire, sur le grand parcours, et laisser les camions faire la livraison terminale. L'avenir, il est quand même beaucoup là. Et dans le même temps, il faut qu'on continue à desservir très correctement les consommateurs plus traditionnels de ferroviaire, que sont la chimie, la sidérurgie, les céréales, les granulats pour le BTP.
Des mesures insuffisantes pour Bruno Poncet, secrétaire fédéral de Sudrail, qui estime que le fret ferroviaire a beaucoup trop souffert ces dernières années d'un sous-investissement chronique face au dumping des transporteurs routiers, notamment d'Europe de l'Est.
Vous avez des conducteurs des pays de l'Est qui gagnent 300-400 euros pour travailler un mois sur le territoire français. Donc il y a une concurrence déloyale qui est en plus orchestrée quand même par des grosses boîtes françaises telles Geodis, qui est une filiale du groupe SNCF. Donc effectivement, aujourd'hui, la concurrence est déloyale et s'il n'y a pas une vraie volonté politique de faire du report modal, je ne vois pas comment on peut arriver à doubler le fret ferroviaire qui a quasiment baissé de moitié depuis 15 ans.
En attendant, le doublement du fret ferroviaire doit également permettre de réduire la pollution car le transport de marchandises produit chaque année 275 millions de tonnes de CO2 en Europe. Un chiffre qui pourrait augmenter de 80 millions de tonnes si rien n'est fait d'ici 10 ans.
Le mur à la frontière américano-mexicaine promis par Donald Trump sera construit. Le président américain l'a dit et répété lors de son discours sur l'état de l'Union cette nuit devant le Congrès américain. Donald Trump y a appelé les démocrates et les républicains à trouver par ailleurs un compromis. Il rencontrera, il l'a dit également, son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Fin février, ce sera au Vietnam. Analyse de ce discours avec Julie Gacon et son invité dans les enjeux internationaux dans 5 grosses minutes à 6h45 sur France Culture. Avant cela, nous nous penchons sur une enquête. Il y a presque 25 ans, un attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana a déclenché le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Il y a eu 800 000 morts en 100 jours. Benoît Colomba nous révèle ce matin avec le site d'information Mediapart de nouveaux éléments sur le cerveau de ce génocide.
Il s'appelle Théoneste Bagosora. Cet ancien directeur de cabinet du ministre rwandais de la Défense est considéré comme l'un des architectes du génocide contre les Tutsis. Selon une note du 22 septembre 1994 de la DGSE, les services secrets français, une note jamais révélée jusqu'ici, le colonel Bagosora est désigné, avec un autre extrémiste Hutu, comme le principal commanditaire de l'attentat contre l'avion du président rwandais Habyarimana, l'étincelle du génocide en préparation. Des juges français enquête également sur 80 tonnes d'armes vendues illégalement en juin 1994 en plein génocide. Livraison d'armes à la demande, là encore, du colonel Bagosora. Selon nos informations, les juges ont reconstitué les circuits financiers de cet achat d'armes qui passe notamment par BNP Paribas. La banque ne fait aucun commentaire. Condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international, Théoneste Bagosora est actuellement incarcéré au Mali, mais il a refusé de parler aux juges français.
Enquête complète à retrouver sur le site de France Culture. Lui n'est pas physiquement devant le tribunal correctionnel de Paris actuellement. Denis Baupin, ancien député écologiste, y poursuit pourtant des médias et des accusatrices pour diffamation. Des femmes qui l'ont accusé publiquement d'agression sexuelle, parmi elles Sandrine Rousseau, ancienne porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Antoine Marette a assisté hier à l'audience pour France Culture.
Comme d'autres accusatrices de Denis Baupin, Sandrine Rousseau a souffert du syndrome de l'imposteur. Cette économiste et militante associative n'entre chez Europe Écologie Les Verts qu'en 2009. Le parti cherche alors pour les européennes des personnalités issues de la société civile. Elle ne connaît pas bien la politique ni la culture du parti. Très rapidement, elle doit faire face aux textos dragueurs de camarades. « Quand on arrive chez Les Verts, on est dragué », explique-t-elle. J'ai installé un rapport de distance poli, aucun homme n'a pensé qu'il y avait une ouverture possible, sauf Denis Baupin. En novembre 2011, elle participe à un congrès d'Europe Écologie Les Verts à Montreuil. Selon elle, c'est à cette occasion que Denis Baupin l'agresse dans un couloir. Il m'a plaqué contre le mur, il a mis ses mains sur mes seins et il a tenté de m'embrasser, je l'ai repoussé. Un moment très furtif, mais qui laisse des traces. Quand on touche les parties intimes d'une femme sans son consentement, on la considère comme un objet. Pour la première fois, je me suis senti comme un objet. Pourquoi ne pas avoir immédiatement porté plainte, lui rétorque l'avocate Denis Baupin. Réponse de Sandrine Rousseau. Quand j'en ai parlé à des responsables du parti, ils m'ont dit « Ah, il a recommencé, ce sont des choses qui arrivent très souvent ». On la renvoie à l'idée qu'une plainte pourrait lui nuire. Elle ajoute des sanglots dans la voix « Je pense vraiment que les femmes doivent faire de la politique et qu'elles ne doivent jamais être agressées sexuellement ». Des applaudissements se font entendre dans la salle. Le président hausse le ton. « S'il vous plaît, pas de réaction !» Sandrine Rousseau conclut très émue. « Plusieurs femmes ont arrêté la politique à cause de ce type de comportement. »
La météo du jour très rapidement avec de la pluie à l'ouest, un grand soleil à l'est avec ce matin 0 degré à Besançon, mais déjà sous la pluie 5 à Lille, 9 à Bordeaux, 13 degrés à Perpignan.